des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie pour cette nouvelle émission de Des livres plein les oreilles. Je suis très très heureuse de vous accueillir. J'ai comme toutes les semaines énormément de titres à vous proposer et j'ai aussi des belles personnes autour de moi. Aujourd'hui, j'ai nommé Jean Bergeron qui est une lectrice bénévole ici chez Vues et Voix et nous avons aussi la grande chance d'avoir avec nous Rima El Khoury, chroniqueuse de la presse qui est déjà arrivée en studio. Bonjour Rima.
Bonjour Clotilde.
Et on va commencer, comme chaque fois dans cette émission, par un entretien téléphonique avec une personne non-voyante qui va venir nous parler d'un livre qu'elle a lu récemment. Et c'est l'ami Jean Brière, aujourd'hui de Québec, qui devrait être à l'autre bout du fil. Bonjour Jean.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous Jean?
Ça va très bien, et vous?
Très bien aussi, je vous remercie beaucoup. Jean, vous avez eu une bonne idée. Bon, il faut dire aux gens que l'émission est préenregistrée. Nous sommes, au moment où nous enregistrons l'émission, nous sommes le 25 novembre, et même si elle est diffusée le 9 décembre, et vous avez eu une bonne idée. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais la présenter, cette bonne idée-là, puisqu'elle est de vous. Présentez-nous cette idée.
Ben, je fais dans l'environnement aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un thème tout à fait d'actualité.
Oui, avec ce qui se passe à Paris.
Effectivement, en présentant un roman qui aborde la question de l'environnement. Mm-hmm. C'est un roman qui s'intitule « État d'urgence ».
Oui, très connu d'ailleurs. Ça a été un best-seller, ça, hein,
ah oui,
pense,
tout à fait, d'un grand auteur américain, Michael Crichton. Mm-hmm. Ça a été publié en 2004, 646 pages, puis il est disponible au SQLA.
Ça doit représenter combien d'heures de lecture, ça, à peu près?
Cette fois-ci, je ne sais pas.
Oh, une bonne quinzaine,
c'est tellement, oui, oui.
Au moins. Oui, une bonne brique,
oui.
Comme ça, là.
Tout à fait, tout à fait. Puis, vous savez, Michael Crichton, c'est un grand auteur de techno-thriller, c'est un terme qu'on dit, moi, je pense à plutôt de la science-fiction doublée de un peu de policiers, d'enquête. Il a écrit beaucoup d'autres romans, dont, bien sûr, le célèbre Parc Jurassique.
Oui.
Qui a fait l'objet de films très connus. Le roman Sphère aussi, le roman Prisonnier du temps, et même son roman posthume qui est paru après son décès, Pirate. Il s'est même payé un beau roman de piraterie.
Oui. Il a toujours fait dans le populaire, le monsieur. Il a le droit.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il le fait bien, en plus.
Ah oui, très bien. Et ces romans sont ce qu'on appelle justement des techno-trailers. C'est des romans dont l'intrigue est basée sur des faits connus et qu'il met en scène de façon particulière pour créer une intrigue enlevante là, dans ces romans.
Alors, racontez-nous un petit peu, parce que honnêtement, j'ai lu beaucoup sur le sujet. Je n'ai pas lu, moi, ce roman, il faut que je sois bien honnête avec vous. Et j'ai lu des critiques dithyrambiques et j'ai lu des critiques horribles, mais absolument horribles. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'il raconte et surtout racontez-nous son point de vue, parce que son point de vue, le moins qu'on puisse dire, n'est pas celui de bien des gens qui s'inquiètent en ce moment.
Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, moi. J'aime ça, parler des affaires un peu controversées. J'aime ça quand on aborde justement des opinions qui font pas partie nécessairement de la majorité. C'est un point de vue qui mérite d'être entendu. Alors, comme je le disais, c'est un techno-trailer qui est doublé même d'un roman essai là, où l'auteur exprime ses opinions justement sur les changements climatiques. Puis, comme la plupart de ses romans, justement, sont basés sur ce canevas de techno-trailer où le héros se retrouve dans une situation où on met justement, dans ce cas-ci, on met en scène des éco-terroristes, des terroristes de l'environnement qui menacent la planète pour favoriser là, le triomphe de leur combat environnementaliste.
Oui, puis c'est...
Les environnementalistes deviennent des méchants là-dedans.
Mm-hmm. Alors, on y va avec des tremblements de terre, avec des tsunamis, avec des cyclones, avec des... Enfin, bref, ça...
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est des catastrophes. On invente, on crée des catastrophes naturelles dans le but, justement, de favoriser et de maintenir, et voire d'accroître le financement pour la recherche scientifique et le financement aussi d'organismes voués à la défense de l'environnement.
OK. Alors,
le roman, brièvement, ça met en scène un avocat qui est justement un avocat environnementaliste qui se rend compte qu'il est manipulé par ses propres clients qui sont justement des organismes défenseurs de l'environnement, des organismes qui expliquent le réchauffement de la planète et qui défendent les recherches scientifiques pour examiner ce problème majeur et y trouver des solutions. Alors, il se rend compte, lui, avec le temps, que c'est justement ses clients, ces organismes environnementalistes-là, servent de couverture à un réseau, justement, d'éco-terroristes qui, un réseau international.
On n'aime tellement pas ce mot-là par les temps qui courent.
Eh non, ben non, hein? Non, tout à fait. C'est un réseau international, justement, qui commettent des attentats sanglants pour, justement, faire triompher là, leur thèse.
Oui, c'est ça, OK.
Et, mais lui, il se retrouve, évidemment, dans des aventures, évidemment, très, très fouillées, là, où on provoque des catastrophes.
Mais ce qui m'intéresserait surtout, Jean, si vous me le permettez, c'est que vous nous parliez un petit peu de l'analyse que monsieur, comment vous l'appelez, Christian, en fait, est-ce qu'on prononce comme ça?
Oui, Michael Christian.
Voilà. Je voudrais d'ailleurs les plaire pour les gens qui nous écoutent, c'est R-I-C-H-T-O-N. Parce que, bon, pour lui, il est convaincu que l'activité humaine, finalement, n'y est pour rien hein, dans l'augmentation de CO2.
C'est plus nuancé que ça.
Oui,
c'est plus nuancé que ça. Ah. Parce que, justement, ce roman-là a créé toute une polémique aux États-Unis à sa parution. Il y a des scientifiques plus près des mouvements écologistes, évidemment, qui ont relevé beaucoup d'erreurs et qui ont critiqué vigoureusement le roman, puis d'autres scientifiques avec une approche plus climato-sceptique telle qu'on entend aujourd'hui, ce genre de cette expression-là, ont dit que le roman soulevait des questions tout à fait pertinentes. Alors, effectivement, ça a causé toute une controverse aux États-Unis, et puis ça a eu en tout cas le mérite de toujours maintenir, finalement, de maintenir la question des luttes au changement climatique toujours dans l'actualité aux États-Unis pendant toute la première décennie du millénaire.
J'ai un avis de lecteur sous les yeux qui a dit « Je n'ai pas aimé, c'est très indigeste, c'est une démonstration trop insistante et étayée par un énorme fatras d'arguments appuyés par des citations scientifiques sorties de leur contexte. » Personnellement, vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas?
Non, je ne suis pas d'accord.
Ah, vous n'êtes pas d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce roman-là nous aide à réfléchir sur le domaine de l'environnement. Actuellement, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont mis par nos gouvernements, par des mouvements privés. Je dis pas que c'est du mauvais travail. Je trouve que ça mérite des fois de prendre le dossier d'un autre point de vue. Et cet autre point de vue-là, Michael Christian a osé l'aborder dans un roman.
Je comprends.
C'est un roman.
Oui, absolument, d'accord. Et puis, je voudrais repréciser que cette émission est diffusée le 9 décembre et que nous voulons imaginer qu'entre deux, la grande conférence, comment ça s'appelle, la COP21, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, a bel et bien eu lieu. Et que, parce que, on est obligé de parler un petit peu aux conditions.
Au conditionnel,
Et on en parlera d'ailleurs avec Rima El-Khoury qui est près de moi et qui arrive de Paris au moment où nous enregistrons cette émission-là. Et honnêtement, ça me glace un petit peu le dos d'avoir constamment à penser à ça. Je vous avouerai qu'avant, je ne précisais jamais que je préenregistrais l'émission. Et là, dès l'instant qu'on parle de Paris, dès l'instant, on est comme Il y a quelque chose qui fait qu'on est maintenant obligé de faire attention à ce qu'on dit. Et bon, et puis, regarder à vivre le temps présent. Et le temps présent, aujourd'hui, eh bien, il est 15 heures au moment où nous enregistrons cette émission. Et nous sommes le 25 novembre. Et nous venons de parler avec M. Jean Brière de Québec du livre État d'urgence de Michael Crichton. Je vous remercie beaucoup, Jean, de nous avoir resuggéré cet immense best-seller qui, à défaut peut-être de plaire, fait peut-être effectivement réfléchir ou en tout cas pose des questions qui sont peut-être utiles. Ce sont les futurs lecteurs qui pourront en décider.
Mais il va plaire aussi.
Il va plaire.
Parce que il y a une dimension aussi thriller, roman d'aventure.
Oui, ben oui,
il se passe quelque chose.
Exactement.
Là-dedans. On s'ennuie pas.
C'est pour ça que je suis contente que vous nous l'ayez proposé aujourd'hui. Je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois très bientôt.
Ben, certainement. Et passez entre-temps une belle journée. Salutations à tous vos auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup, Jean. C'est très gentil. Au revoir.
Au revoir.
Alors voilà, avec deux petits verres d'eau qui viennent d'arriver en studio, merci beaucoup à Jean Bergeron. Rima El Khoury, bonjour.
Bonjour.
Je suis très, très touchée, vraiment, que vous soyez des nôtres. Hier encore, vous étiez à Paris. C'est pas vrai, c'est vraiment une boutade là quand je dis que vous êtes rentrée exprès pour nous. Mais je dois dire que ça me touche, et ça nous touche particulièrement. Je voudrais d'abord vous demander comment vous allez.
Je vais bien. C'est sûr que je reviens d'une semaine à Paris après les attentats.
Oui.
Évidemment, c'était un Paris triste. J'avais jamais vu un Paris aussi triste. J'avais déjà eu l'occasion d'y aller. J'y étais cet été d'ailleurs en vacances. Donc c'était un Paris. J'ai jamais vu Paris aussi triste. Paris en état de choc. On est passé, mais on voit même en une semaine comment on est passé de l'état de choc, de la sidération, de la tristesse à quand même, il y a eu un élan de solidarité assez impressionnant et qui faisait du bien quand même. J'ai quand même vu une France debout, Paris qui restait debout, qui restait très digne et qui est en train de, encore panser les plaies. Il y avait encore des funérailles, donc il y a eu 130 victimes, c'est énorme, c'est les pires attentats depuis la Seconde Guerre mondiale en France. Il faudra du temps pour se relever et y a quand même, je crois que j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui, malgré tout, gardent espoir et essaient de trouver les meilleures solutions pour passer au travers de ces temps, de cette époque qui est quand même une époque triste.
Oui, triste. Mais je me faisais la remarque avec des camarades, peut-être que Jean sera d'accord avec moi, mais évidemment que pour nous aussi, pour nous qui vivons ici à 5500 kilomètres, l'onde de choc, elle est arrivée jusque-là, mais il y a quand même 5500 kilomètres. Et je pense qu'on ne se rend pas compte. Vous savez, c'est un petit peu comme un accident. Tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne se rend pas compte du chamboulement humain que cela représente.
Oui, s'il y a quand même un lien très fort entre le Québec et la France.
Exactement. Et puis, il y a des textes, justement, comme les vôtres, comme d'autres aussi, journalistes, reporters, chroniqueurs qui sont allés là-bas, qui sont encore là-bas, d'ailleurs, pour certains, ou d'autres qui sont en Belgique. Encore ce matin, je lisais aussi quelqu'un qui est encore en Belgique. Et je voudrais donc qu'on en arrive au pourquoi de votre visite ici. C'est votre livre, Rima, qui s'appelle « Pas envie d'être arabe ». Quel titre, hein? Et il faut préciser que c'est le titre de votre première chronique?
Toute première chronique à la presse, oui.
Parce que vous, dans votre cas, vous n'êtes pas prête d'oublier la date d'arrivée à la presse, hein, Rima?
Oui, c'était pas ma date d'arrivée, mais c'était ma date où j'ai été nommée chroniqueuse. Donc, j'étais journaliste avant à la presse. D'abord, réviseur, ensuite journaliste. Et le 10 septembre 2001, c'est la journée où on m'a nommée chroniqueuse.
OK.
Et je me demandais, je me disais, sur quoi, quel sera mon premier sujet? Et arriva le 11 septembre.
Le lendemain.
2001,
incroyable.
J'ai eu l'impression que le 10, j'étais une chroniqueuse et que le 11, je devenais une chroniqueuse arabe, bien malgré moi. avec ce nom, Rima El Khoury, qui est pas un nom qu'on retrouve beaucoup dans les médias au Québec, qui sont quand même assez homogènes. Hein? Les médias sont pas du tout à l'image du Montréal.
Multiethnique.
Ça reste quand même un milieu assez homogène. Donc, des journalistes d'origine arabe, il y en a très, très peu. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où on porte ce nom au lendemain du 11 septembre, mais on devient, en fait, moi, je me considère pas porte-parole d'une quelconque communauté, mais on devient un peu porte-parole par défaut. On nous donne ce rôle-là parce qu'il y a peu de voix qu'on entend dans les médias. Et au fil des chroniques, ma toute première chronique, c'était « Pas envie d'être arabe », où j'expliquais un petit peu, non, pas que j'ai honte de mes origines, mais simplement, il y avait au lendemain du 11 septembre, cette obligation d'avoir à choisir son camp. Hein. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et alors que, en fait,
ça n'a rien à voir.
C'est un peu plus complexe que ça. Ouais.
Bien sûr, exactement. Votre maman, à un moment donné, avait pensé à changer de nom. Vous, ça ne vous est jamais venu à l'esprit, à un moment donné, de dire bon, allez, ras-le-bol, je vais m'appeler Rima. Tiens, Rima Tremblay. Tiens,
Rima
voilà.
Rima Tremblay. Mais oui. Mais en fait, c'était une idée que ma mère avait eue quand on était très jeune, et puis. Non, en fait, je comprends que maintenant, il y a des gens qui changent de nom pour toutes sortes de bonnes raisons. Et on le sait, là, les études nous montrent que un employeur devant deux CV, un avec un nom arabe et l'autre, ou pas juste arabe, ça peut être un nom d'origine africaine.
Oui,
ou
bien
latino,
sûr. Oui.
Exactement le même CV, il y a une discrimination qui s'exerce. Mais cela dit, je vis très bien avec mon nom, même si parfois, on me juge juste en lisant mon nom, ou on me dit « vous » dans votre pays, en parlant de pays que je connais pas, ou on m'attribue des idées qui sont pas les miennes. Donc, il y a tout un travail de pédagogie à faire, mais que je me suis amusée à faire. C'est un travail de dialogue que j'aime bien faire, en fait, et qui n'est pas seulement négatif.
Oui, parce qu'il faut quand même qu'on précise, c'est que vous êtes née dans le quartier de Cartierville, de Montréal-Nord.
Oui, Cartierville. Donc, quand on dit retourner dans votre pays, c'est juste à prendre le métro.
Mais dès qu'il y a eu cet attentat sur les tours, cette idée de titre vous est venue tout de suite? Pas envie d'être arabe? Ou est-ce que c'était profond? Est-ce que ce jour-là, vraiment, vous vous êtes réveillé ou vous vous êtes couché en disant « Oh là, j'ai tellement pas envie de m'appeler El Khoury »
Oui, je crois que c'est un peu... c'est-à-dire qu'on sait, à partir du moment où les responsables des attentats portent des noms arabes, on sait que forcément, on sera coupable par association, mais c'était pas une préoccupation personnelle. Donc, moi, je suis chroniqueuse à la presse, je suis quand même privilégiée. Je me sens pas du tout comme une victime.
Non, non.
Je me sens comme une témoin. Un témoin privilégié. Et donc, forcément, il y a eu un ressac après le 11 septembre. Mmh. L'étranger, l'arabe en particulier, c'est forcément, il y a eu des répercussions pour le vivre ensemble, pour la perception. C'est un petit peu ce cri du cœur-là. Mais c'était pas uniquement un cri du cœur, à savoir, c'est terrible d'être arabe. C'est aussi... le besoin de qu'on tienne compte des identités comme quelque chose de toujours complexe. J'aime beaucoup Amine Malouf qui parle de l'identité, qui dit de réduire les identités à une seule appartenance. Il y a quelque chose de meurtrier là-dedans. Oui. Il parle des identités meurtrières. Et j'aime beaucoup cette conception de l'identité qu'on a toujours tendance à ramener les gens à une seule identité, une seule communauté, alors que tout le monde a une l'identité est multiple et aussi... Même si, bon, on est que nos origines soient arabes, autochtones, françaises ou peu importe, on a plus en commun avec nos contemporains qu'avec nos ancêtres.
Mais hein?
On a tendance à parler toujours de nos racines. Au fond de toi, qu'est-ce que tu es? Mais il n'y a pas de fond, c'est vraiment on est ce qu'on construit, les liens qu'on tisse avec les gens. Et donc, c'est pour des enfants d'immigrants comme moi. Donc moi, mes deux parents ont immigré à Montréal dans les années 60.
Oui.
Mon père du Sénégal, et mon père qui est sénégalais d'origine libanaise, ma mère arménienne d'origine syrienne. Donc eux-mêmes, enfants d'immigrants, c'est vraiment toute une histoire de zigzag et de... Donc.
D'ailleurs, ça vous fait dire quelque chose de très, très beau en page 20 de votre livre. Donc là, vous parlez de la génération de vos grands-parents qui a connu la guerre et le génocide, donc ils se sont exilés pour survivre. Votre grand-père paternel, vous venez de le dire, c'était Ra, la grand-père maternel, pareil, qui a quitté la Turquie pour la Syrie, etc. Et là, vous dites, si la tendance se maintient, j'appartiendrai à la première génération de paresseux.
Exactement.
La génération de ceux qui peuvent s'asseoir et profiter... J'aime tellement cette image. Profiter du banc posé par leurs ancêtres tout au bout du chemin. Vous avez une écriture formidable, Rima. Vraiment.
C'est
parce que...
Hein? C'est poétique.
Ah, oui, c'est poétique, mais c'est d'une légèreté. Puis en même temps, les choses sont dites sans acrimonie. En tout cas, j'admire beaucoup votre écriture et ça me surprend d'autant plus lorsque vous dites aussi, encore une fois au début du livre, que vous êtes tombé dans le journalisme par hasard. Mais cette écriture-là, vous l'avez nourrie, vous l'avez travaillée, vous l'avez... je veux dire, c'est quand même pas une écriture de chroniqueuse banale que vous avez là.
Merci, c'est gentil. J'ai toujours aimé écrire, mais c'est vrai que je ne me destinais pas au métier de journaliste.
C'est un peu de la faute à Foglière encore, qui était sur votre frigidaire. Hein?
Oui, oui, oui.
Le vieux grognon. À un moment donné aussi, il y a une phrase moi, que je trouve terrible, c'est lorsque vous parlez du racisme, bon, donc de tous ces gens, on en a déjà parlé, mais qui vous ont traité d'arabe, qui vous ont dit « rentre chez toi », etc., « rentre chez vous ». Mais vous dites en page 11, « L'ennui, c'est qu'ils ne sont pas toujours ignorants. C'est peut-être ce qui m'a le plus troublé depuis 10 ans, ces messages qui suintent le racisme venu de gens visiblement instruits. Cette haine qui n'a pas l'excuse de l'ignorance et qui se drape même de vertu. Le racisme, sans faute d'orthographe, me semble la pire forme qui soit. » C'est assez douloureux, merci. Et je me dis parfois, parlant de douleur, vous êtes allé dans un couloir de la mort à la rencontre d'un prisonnier, Hank Skinner. Hein,
oui.
Vous avez rencontré les pires des tristesses, les pires des chagrins, et vous les avez écrits avec toujours beaucoup d'humanité. Il n'y a pas des fois où vous avez eu envie de tout plaquer, d'aller planter des tomates et de lâcher tout ce qui est lait pour tous, parce que vous avez côtoyé forcément le lait, parce que vous avez besoin de le côtoyer pour l'écrire.
Oui.
Est-ce qu'il y a des fois où vous avez eu envie de tout laisser tomber, Rima El-Khoury?
Non, c'est sûr qu'il y a des fois où bon, je me dis peut-être que je pourrais choisir des sujets un peu plus légers, parce que du couloir de la mort, où j'ai fait aussi un grand reportage sur le génocide des Arméniens pour retrouver les...
Ça a été formidable, oui. Oh là là.
Donc c'est des sujets qui sont passionnants, mais qui sont lourds et qui forcément nous atteignent. Oui, il y a des fois je me dis bon là je suis mûre pour un sujet plus léger.
Oui.
Parfois je fais des sujets plus légers où je fais des... j'aime bien raconter des histoires un peu de la vie ordinaire, de gens qui... des histoires de gens dont on parle pas.
Comme par exemple cette femme de petite taille, ça m'a beaucoup touchée,
oui.
Valérie, ou encore ce docteur extraordinaire, ce gynéco en République démocratique du Congo qui répare les femmes.
Oui, donc ce qui me raccroche aussi, c'est ça, de temps en temps, de dire, bon, mais... oui, le métier de journaliste, c'est de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, hein, de parler de ce qui ne va pas. Mmh. Donc, forcément,
oui, mais justement,
si on ne voit que ça, ça peut être un peu déprimant, mais j'ai aussi, la chronique me laisse une grande liberté. Et très souvent, je raconte aussi des histoires qui font du bien.
Oui,
juste
exactement.
Des gens qui changent, qui essaient de changer le monde à leur
façon,
qui disent non, qui se lèvent, toutes ces histoires-là, quand même, donnent espoir malgré tout.
Et ça nous nourrit aussi beaucoup, et nous, ça nous fait du bien. Moi qui vous lis tous les matins, là, parfois vous êtes quelques-unes, souvent ce sont des femmes d'ailleurs. J'ai remarqué qui ont des écritures parfois, je veux dire, ou alors qui nous lancent sur des sujets un peu plus légers sans être superficielle, entendons-nous bien.
Oui.
Entendons-nous vraiment bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est pour ça que j'aime... Bon, vos sujets, vous parlez beaucoup de féminisme quand même. Hein. L'enfance, les autochtones, bon, la condition féminine. À un moment donné, vous citez ce livre merveilleux, Les années, d'Annie Ernaux.
Oui, j'adorais.
C'est un livre important pour vous, Les Malcouris, les années?
Oui, mais j'aime beaucoup Annie Ernaux et j'ai particulièrement aimé ce livre-là qui est un peu les années, c'est un peu un bilan hein, pour Annie Ernaux qui raconte un peu sa vie, son combat est tout teinté de ses réflexions féministes et comment finalement pour une jeune génération on a l'impression que les jeunes femmes parfois ont l'impression que tout est gagné, qu'il n'y a plus rien à faire elle parle de son du coup de cafard qu'elle a un petit peu en regardant où on en est maintenant avec ses enjeux.
Oh, ben oui. Elle a une phrase là, terrible et vous, d'ailleurs, c'est ainsi que vous terminez votre chronique qui s'appelait comment celle-ci, le féminisme en string.
Ouais.
Vous commenciez par parler de ces petites filles de 11 ans qui mettent déjà des strings. Enfin bon. Et à la toute fin, donc, vous la citez, Annie Ernaux, avec cette phrase « Nous qui avions avorté dans des cuisines, divorcées, qui avions cru que nos efforts pour nous libérer serviraient aux autres, nous étions prises d'une grande fatigue. Nous ne savions plus si la révolution des femmes avait eu lieu. Point. Et vous avez juste rajouté « à méditer ».
Oui, c'est terrible comme phrase.
Comme constat.
Ouais, ouais.
Mais ce sont des constats. D'ailleurs, vous en faites souvent des constats douloureux, comme ça. Il y a par exemple le constat sur les autochtones que vous faites. Je ne me souviens plus du pourcentage de gens qui disent en parlant des autochtones que finalement, ce sont des petits chanceux qu'on... je ne me souviens plus. Attendez, je vais essayer de retrouver ça.
Oui, on a l'impression que ce sont des privilégiés.
Oui, c'est ça. Qu'on les maintient en plus dans un niveau de confort, finalement.
Oui, alors que j'entendais encore aujourd'hui, on parlait, il y a eu un bilan des criminalités au Canada.
Oui.
Et le taux d'homicide, les victimes d'homicide chez les Autochtones, c'est 25% des meurtres au Canada. C'est terrible alors que c'est 2-3% de la population.
Ouais. Et on disait aussi qu'il y avait... C'est une bonne nouvelle, que le chiffre, je pense, sur les actes criminels était relativement
stagnant. Oui, c'est
stagnant,
ça, il y a une...
Sauf les agressions sexuelles.
Ah oui.
Et ça aussi, c'est un sujet qui vous touche. Il y en a un sur le viol qui est vraiment formidablement écrit. Pouvez-vous croire que ça fait déjà 17 minutes qu'on écrit? J'ai encore 3 pages de questions sur ce livre merveilleux qui est donc on a réuni en 440 pages, je ne sais plus combien, de chroniques écrites par Rima El-Khoury, qui était mon invitée aujourd'hui. Rima, vraiment, merci beaucoup.
Mais merci à vous pour l'invitation.
Et je vais continuer de vous lire avec assiduité tous les matins ici à l'émission Les Voix de Service. Comptez sur moi. Alors ne manquez pas de Rima El-Khoury, pas envie d'être arabe. Mais vraiment, ne manquez pas ça. C'est disponible depuis peu via le SQLA. Je vous rappelle que c'est gratuit pour aller vous procurer ces livres audio adaptés pour vous par les bénévoles de Vues et Voix, dont Jean Bergeron, avec qui je vais m'entretenir dans quelques secondes. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Bonjour Jean Bergeron.
Salut.
Ça va bien?
Oui.
C'est votre deuxième participation à l'émission?
Oui, juste, oui.
Eh oui. Et là, vous nous arrivez avec un livre que vous avez lu en tant que lectrice bénévole.
Oui,
Vous aimez mieux dire narratrice, c'est ça?
Ben non, mais c'est parce que je suis allée au salon du livre au kiosque de Vues et Voix ce week-end et j'ai vu que c'était écrit narratrice. Je me suis dit, ah oui, on narre une histoire.
C'est vrai, c'est
alors,
vrai.
Mais sinon, moi, j'avais tendance à dire lectrice parce qu'on lit, hein, on lit toutes ces pages.
Pour les gens qui seraient surpris de vous avoir entendu dire au Salon du Livre cette semaine, non, mais c'est pas grave, maintenant je le dis, donc l'émission est préenregistrée, nous avons préenregistré cela le 25 novembre, si malheureusement il est advenu des événements fâcheux entre le 25 novembre et le 9 décembre, date à laquelle l'émission sera diffusée, vous comprendrez pourquoi, voilà. Mmh. Alors Jean, ce livre, L'Aube Noire de Mario Falcone.
Oui.
De Alors, quoi il s'agit?
Ben, c'est un livre, c'est un roman. Cet auteur-là, Mario Falcone, il a écrit pour la télévision italienne.
Ah, OK.
Et, ouais, c'est un auteur scénario italien. Et puis, c'est son premier roman. Et je trouve que c'est le premier livre, d'ailleurs, que j'ai lu ici à Vuzévoix et que j'ai enregistré. Et puis, c'était... Ben, moi, ça m'avait touchée parce que moi, tu sais, on parlait tantôt avec
Rima El Khoury,
de qu'on est multiples aussi.
Ouais,
alors
ouais.
Moi, je suis québécoise, j'ai été élevée en québécois, mais je suis moitié italienne.
Ah, OK!
Et puis les deux grands-parents, mais j'ai jamais connu mes grands-parents italiens, okay. Justement, parce qu'à cause de tous ces interdits. Alors, donc, pour en revenir au livre, mm-hmm. En 1908, ça se passe en Sicile, dans la ville de Messine, et justement avec... c'est drôle parce qu'on parlait de l'autre personne à Québec tantôt qui a parlé
oui Monsieur Brière
sur au sujet des catastrophes. Alors ça, c'est une catastrophe, c'est un tremblement de terre,
okay.
Qui se passe en 1908 véritablement, et lui est parti de cette histoire. Le tremblement de terre était tellement grave, tellement grand, qu'il a complètement effacé de la carte cette ville Messine.
Ah d'accord, oui.
Ouais. Et puis, ben, ce qui est intéressant, moi, je trouve que c'est un livre, donc c'est la deuxième fois, puisque vous m'avez invité, puis ce livre-là, je l'ai lu il y a un peu plus d'un an. Alors, je l'ai réemprunté à la bibliothèque et je me suis remise dedans. Et je trouve que c'est, tu tournes les pages et puis il y a des trucs que je me rappelais, il y en a d'autres que j'avais comme un peu oublié, parce que quand on lit, c'est pas pareil, non, quand on lit à voix haute. Alors, c'est assez fascinant. Moi, je le recommande parce que... ça raconte un peu comment la mafia aussi, qui était déjà installée là-bas en 1908 et probablement un peu avant aussi, c'est aussi l'époque où est-ce que je pense que l'Italie s'est réunie, parce qu'il y avait comme un roi avant et puis là, ça se passe autrement. Mais, et là-dedans, il y a des personnes qui se font tuer, évidemment. Mais il y a beaucoup de sexualité aussi.
Ah oui?
Oui. Je veux dire, c'est pas décrit de façon très explicite, mais quand même...
C'est très suggestif.
Oui, c'est ça. Et les femmes, t'as des femmes de la haute, évidemment, et d'autres femmes, non. Mais c'est... Tu vois que les mœurs, en tout cas, lui, je sais pas s'il a fait de grandes recherches pour où il s'est tout simplement amusé, mais il y avait une famille à l'époque là dans cette ville-là qui contrôlait un peu tout, comme un peu comme aujourd'hui aussi.
Oui, oui.
Alors, en même temps, c'est intéressant de voir comment c'est transposé autrement un siècle et plus.
Mais est-ce qu'on peut dire quoi? Est-ce que c'est un polar, un roman historique, un roman catastrophe?
C'est pas un roman historique, c'est un polar, en fait, parce que c'est des enquêtes de carabiniers, de policiers sur des meurtres qui se passent dans cette ville-ci. Et on pense qu'enfin, on se demande s'il y a un lien entre chacun. Et puis, tu vois, il y a un Italien qui arrive aussi, qui est à New York, mais qui revient dans sa ville et puis qui veut acheter un lopin de terre. Il y a différentes familles.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Les puissants, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres.
Il y en a qui sont pauvres, justement. Voilà. Alors, c'est la vie, quoi.
Le jeu aussi, je crois. Hein?
Oui.
Les passions, la prostitution.
Exactement, oui. C'est ça, c'est le monde d'aujourd'hui, mais transposé il y a une centaine d'années. Alors, on voit un peu comment ça se passait. Ben, l'histoire se répète, hein.
Oui,
puis
oui.
Tantôt, en écoutant Rima, je me dis, mon Dieu, ça prend du temps avant de changer les mentalités, tout ça évolue, puis qu'on fasse... Tu sais, on voit, il y avait des Italiens d'un peu partout d'Italie. Je pense qu'il a volontairement mis ça, quelqu'un qui vient de Venise ou de d'autres villes qui viennent soit s'installer, soit visiter, soit y travailler.
Exactement.
Alors, tu sais, même les gens se mélangent.
Est-ce que vous avez un petit extrait?
Ah, mon Dieu! Ben, à moins que je... Non, je
Comment je... ça, non? Ben, eh bien, alors, regardez. Vous savez ce que je vous propose?
Ouais.
Le début du livre. Souvent.
OK.
Oui, un début de livre. Sinon, on ne va pas commencer par la fin, quand même.
Non, mais j'allais vous lire la page, ce qui annonce un peu l'histoire.
Oh non, ben ça, non, on en parle. On n'en a pas la quatrième.
Alors, allez, donc, ça se passe au mois d'août. Tout le livre se passe en l'espace de 4 mois, parce que le tremblement de terre, c'est le 28 décembre de l'année qui se termine. Donc,
le tremblement de terre vient finir ce cycle-là.
Oui, voilà. Donc, samedi 15 août 1908, l'aube se leva plus tôt que d'ordinaire sur Messine, comme si elle craignait d'être en retard pour la fête. Dans les rues de la ville endormie, le frottement des balais des éboueurs, quelques voix, des bâillements isolés, çà et là aux fenêtres ouvertes, aux portes des maisons, commençaient à troubler le silence. Les premiers fiacres roulaient sur les pavés de lave brune. Les cafés ouvraient leurs portes. Sur les quais, place de la cathédrale, des vendeurs ambulants venus de toute la Sicile et aussi de Calabre montaient leurs étals. Partout on s'embrassait, on échangeait des vœux pour l'Assomption. La ville bruissait de sa rumeur chantante et joyeuse. C'était le jour de la Vara.
Moi, j'en aurais pris plus. Parce que dans ces cas-là, je ferme les yeux, moi, quand j'écoute un extrait.
Ah oui, et puis, non, ouvre, c'est et puis, vraiment... Mais tu vois, la Vara, c'est la fête de l'Assomption. Donc, c'est à la fin du mois d'août, enfin, à la mi-août, le 15 probablement, et jour de la Vara. Et il semble, parfois, je me disais, voyons, je comprends pas trop comment ça se passe. Et on dirait que ça se passe et en mer, et sur terre, et on tire...
Et la ville de Messine, hein, je pense, a un rôle particulier aussi. On dirait que c'est un personnage quasiment,
ouais.
Parce qu'on visite beaucoup Messine hein, dans ce
roman-là. On nous amène.
On nous promène beaucoup hein, dans les ruelles, dans les jardins, dans les églises.
Ben, ça a l'air que c'était une des plus belles villes d'Italie.
Ah oui.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et cette fête-là de l'Assomption est célébrée avec ferveur et enthousiasme. Rien ne semble pouvoir ébranler la ville. Les enfants du peuple y sont élevés dans le respect d'une aristocratie toute puissante qu'incarne avec morgue la famille Torielli. Quant au clan mafieux, ils se partagent paisiblement les extorsions de fonds que nul n'ose dénoncer. Écoute, aujourd'hui, pour parler, j'écoutais tout le rapport.
Mais oui, nous sommes au lendemain du dépôt du rapport de la commission de Charbonneau. Oui, absolument.
Et puis on disait, tu sais, tout le monde le sait, tout le monde se tait, personne n'ose dénoncer. Ouais. Alors,
lorsque le livre est sorti en mai 2013, et je dirais sorti sur papier, il y avait dans la presse une critique qui disait « L'aube noire de Mario Falcone est un récit captivant qui tient à la fois du polar d'enquête classique, du récit historique et de la fresque sociale. Ouais. » Vous êtes d'accord avec ça?
Oui,
c'est parfaitement bien condensé.
Tout à fait, oui. C'est vraiment ça.
Alors, donc, c'est Jean Bergeron qui est venu vous présenter L'aube noire de Mario Falcone. Ça s'écrit F-A-L-C-O-N-E. Et je vais remercier bien gros, comme on dit, Jean Bergeron, bien fort d'être venu avec nous encore aujourd'hui.
J'adore.
C'est vrai?
Ah oui, j'aime ça faire ça. J'aime lire également. Là. C'est vraiment passionnant.
Ça veut dire qu'on vous retrouve bientôt?
Ben, ça veut dire qu'il faudrait que je me remette à lire. Là, j'ai déménagé cet été. Alors, j'ai dit non, j'ai pas le temps. Mais là,
elle n'a pas le temps, mais comme elle adore ça, vous allez voir qu'elle va le faire. Jean Bergeron. Merci beaucoup, Jean, et bonne fin de journée.
Merci
salut.
À toi, Clotilde.
Alors, c'est la bande-annonce pour vous parler un petit peu de ce qui nous attend la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je suis très heureuse, je vais m'entretenir au téléphone cependant, parce que il ne pourra se déplacer de Sherbrooke. Je vais m'entretenir avec Karl Marchand. Qui est Karl Marchand? Karl Marchand, c'est un jeune homme, il est encore, oui, relativement jeune, qui a eu la chance de côtoyer l'abbé Gravel, Raymond Gravel, mais dans les derniers moments de sa vie. Alors, il a écrit un livre qui s'intitule « Le dernier combat ». Raymond Gravel, c'est dans la série Portrait et c'est sorti sur papier aux éditions du CRAM et c'est disponible depuis très peu de temps également via le SQLA. Ça a donc été lu ici. J'ai besoin que le monde m'aime. Voilà, c'est dit. Avait dit Raymond Gravel. Après 9 mois d'entretien et de rencontres, Raymond Gravel laisse tomber cette toute petite phrase écrite à son tour Karl Marchand. Si quelques mots suffisaient à le définir, ce serait cela. Ce besoin d'amour viscéral, profond, est à la base de sa personnalité et constitue l'objet de sa quête existentielle. S'il y a une chose que la maladie n'a pas changée chez lui, c'est bien cette soif de communiquer, de discuter pendant des heures. Or, quand vient le temps de parler de lui-même, Raymond Gravel se transforme en homme de peu de mots. comme si ce n'était pas important, comme s'il n'en valait pas la peine. Je me suis souvent demandé, en l'écoutant, dit Karl Marchand, ce qu'il serait devenu s'il était né une génération plus tard. Ses sermons en chaire auraient peut-être pris une autre forme, politicien de carrière, homme de scène, motivateur ou même journaliste pour la télévision, il aurait sans doute exercé un métier lui permettant de capter l'attention des foules. Après tout, si tant de gens l'écoutent, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose d'intéressant à raconter. Alors au fil de ses entretiens avec l'abbé Gravel, au crépuscule de sa vie, Karl Marchand nous donne à lire cet émouvant récit, au jour le jour, d'un combat ultime extrêmement difficile de ce grand humaniste qu'a été l'abbé Gravel. J'ai pour vous une citation ou deux, et peut-être même un extrait si j'en ai le temps. « La foi, ce n'est pas un savoir, disait l'abbé Gravel, c'est être. Je suis croyant, c'est tout. Si j'ai à savoir quelque chose, je le saurai comme vous autres. S'il n'y a rien après, je vais être obligé de m'y faire. La foi, c'est de l'espérance, et c'est juste ça. » Et à un moment donné aussi, il a dit « Quand le verdict de la mort tombe, quand le décompte s'amorce, les masques ne peuvent plus tenir, impossible de mentir. C'est là que l'on voit ce que quelqu'un a dans le ventre, comment rester sain d'esprit face à l'annonce de sa propre fin. Comment arriver à son dernier souffle dans la sérénité ? » J'ai un petit peu de temps, Jean-Sébastien, alors je voudrais vous lire un extrait que j'ai choisi pour vous. Je vous avouerai que je n'ai pas encore totalement fini ce livre. J'ai encore une petite semaine pour le faire. Et c'est pas un gros livre, hein. Sur papier, c'est 160 pages à peu près. Alors, à un moment donné, voilà, il dit ceci en page 56. « Je demande à l'abbé Gravel si son célibat imposé lui pèse. » Avant d'enfiler la soutane, à 33 ans, il était déjà un célibataire convaincu. « Ça n'enlève pas le désir, » répond-il, « mais je n'ai jamais vraiment souffert. J'ai trouvé plus difficile d'arrêter la drogue et la cigarette. Je n'ai pas fumé depuis 6 mois et j'en ai vraiment envie. L'air de rien, volontairement ou non, nous venons de changer de sujet. Cette maîtresse qui l'a accompagnée depuis 49 ans aura été son plus grand vice. J'aimais mieux fumer que me marier. » dit-il, 6 mois après sa dernière bouffée. Raymond Gravel n'a rien trouvé qui atténue son désir de faire usage du tabac. Il y a quelque chose de bénéfique dans la cigarette, fait-il sur un ton insistant. À l'écouter, ce serait presque une forme de méditation contemplative. Il n'est pas en manque, mais des rages de cigarette lui prennent parfois le corps et l'esprit, et certains indices ne mentent pas. L'abbé Gravel conserve encore le dernier paquet qu'il a acheté dans son congélateur. Voilà, cet extrait de Raymond Gravel, Le dernier combat. J'ai très très hâte d'en parler avec Karl Marchand, qui l'a donc suivi pour ce dernier combat pendant les 9 derniers mois de sa vie. C'est la semaine prochaine à l'émission Des livres plein les oreilles. La littérature, les romans et puis l'histoire aussi. Laissez-moi vous plonger un petit peu dans l'histoire de la Corriveau. C'est un peu une double chronique. C'est une chronique sur ma table de chevet parce que ce livre est sur ma table de chevet avec quelques autres, disons ça comme ça. Et puis c'est aussi des nouvelles et des livres parce que j'ai trouvé un super papier. C'était le 9 novembre dernier. C'est sorti dans Le Soleil. C'est au sujet de la fameuse cage de la Corriveau qui est enfin entrée au musée de la civilisation. Et en même temps que je trouvais cet article-là, j'apprenais par le SQLA que le livre « La Corriveau, de l'histoire à la légende » était arrivé, en version audio adaptée, écrit par Catherine Ferland et Dave Corriveau, qui est donc un descendant de Madame Corriveau. Et alors, on nous dit donc que la vraie cage, ça je vous l'ai dit, excusez-moi, alors « La Corriveau, de l'histoire à la légende » de Catherine Ferland et Dave Corriveau, c'est de ce livre dont je voudrais vous parler tout de suite. On nous dit, en arrière, sur la quatrième de couverture, Québec, le 15 avril 1763. Joseph de Corriveau est reconnu coupable du meurtre de son mari. Elle est condamnée à mort par pendaison. Son corps encagé est exposé à une populaire croisée des chemins à Pointe-Lévis. Celle qu'on appellera désormais La Corriveau va bien involontairement entrer dans l'histoire et dans la légende. La Corriveau, c'est un personnage fascinant qui hante la mémoire collective québécoise depuis des générations. Basée sur un fait judiciaire à la tournure tragique, l'histoire de Marie-Joseph de Corriveau a été reprise et progressivement déformée jusqu'à devenir l'une des plus célèbres légendes du Québec, au point où il devient difficile de départager le vrai du faux. Pour le meurtre de combien de maris a-t-elle été condamnée? Avait-elle été placée vivante ou morte dans cette sinistre cage de fer à une intersection passante de la côte du Sud? Et d'où proviennent les allégations de sorcellerie qui entacheront bientôt sa mémoire? Eh bien, Catherine Ferland et Dave Corriveau se sont livrés à une minutieuse enquête pour rétablir la véritable histoire de Marie-Joseph de Corriveau, mais ils se sont aussi attachés à retracer la trajectoire de la légende elle-même, ainsi que ses nombreux parcours dans la culture populaire à travers les arts et la littérature de nos jours jusqu'à nos jours. Alors voici pour vous quelques larges extraits, peut-être même dans son intégralité, ce papier sorti dans Le Soleil. C'était écrit par Josiane Desloges qui nous dit « Après 2 ans d'analyse et de démarches administratives, la cage de Marie-Joseph Corriveau, qui était exilée à Salem, au Massachusetts, depuis 1899, a été authentifiée et rapatriée au Québec pour intégrer la collection permanente des musées de la civilisation. Je dois vous dire que dans le livre « La Corriveau de l'histoire à la légende », il y a je ne sais plus combien de pages sur cette cage qui a été retrouvée au moins 20 fois, mais ce n'était pas la bonne. Mais là, celle qui est à Québec, au musée de la civilisation, c'est la vraie. La veuve est entrée dans la légende qui lui a attribué la mort non pas d'un, mais bien de 7 maris. Mais avec les résultats de recherche que nous dévoilait mercredi le comité scientifique constitué par les MCQ, donc les musées de la civilisation et la Société d'histoire régionale de Lévis, on dirait bien que l'histoire est en train de reprendre ses droits. Des archives confirment que la Corriveau a été jugée, condamnée, pendue, exposée, puis inhumée en 1763, année du traité de Paris et de la prise de possession officielle de la Nouvelle-France par les Anglais. Laisser le corps d'un condamné se détériorer à la vue de tous dans un exosquelette de fer, un gibet. C'était pratique courante en Angleterre à l'époque, mais désuète en France, a souligné Stéphane Laroche, le directeur général des MCQ, les musées de la civilisation. Celui-ci parle de la nouvelle acquisition comme d'un objet phare au-delà des légendes qu'il a engendrées, qui nous amène à nous pencher sur la condition féminine de l'époque et bien sûr de l'évolution de la justice. Les recherches effectuées par les experts nous révèlent d'ailleurs plusieurs détails inédits, comme le fait qu'il n'y a eu que 2 cas de gypting au Québec. Donc ce sont comme des encagements, si vous voulez, celui de la Corriveau et un autre à Montréal. Un spécialiste de la conservation et de l'analyse des métaux, Jérôme Morissette, a déterminé que la rouille qui recouvre l'armature a été causée par des décennies d'enfouissement et par conséquent que la dépouille n'avait pas été placée dans une cage rouillée. Youri Harvey et Martin Dauphinet, spécialistes de la forge traditionnelle, ont établi que la technique utilisée pour construire l'objet est bel et bien celle privilégiée au XVIIIe siècle. La cage, qui comporte des pièces recyclées, des roues de charrette par exemple, aurait pu être assemblée par un habile forgeron en moins de 48 heures, selon les 2 experts. Des documents tirés de la collection d'archives du MCQ permettent de retracer, au-delà de l'objet, les grandes lignes de la vie de Marie-Joseph de Corriveau. Celle-ci, nous rappelle Josiane Desloges, est née en 1733 à Saint-Vallier, dans Bellechasse. Elle a eu 3 enfants d'un premier mariage. Le second a duré 6 mois. Jusqu'au décès de Louis-Étienne Daudier, qui fut enterré puis exhumé pour un rapport d'autopsie qui a confirmé son assassinat. Marie-Joseph et son père furent arrêtés et jugés dans la grande salle du couvent des Ursulines de Québec. Le premier procès condamna le père à mort et la fille à 60 coups de fouet et à être marquée au fer rouge. Le second établit que la Corriveau était la seule coupable. Elle fut pendue à la Butte-à-Neveu sur les plaines d'Abraham. Alors, quant à la cage, elle fut suspendue à une intersection passante de la pointe Lévis. Pour les curieux, celle-ci serait au coin de la rue de l'Entente et de Saint-Joseph, actuellement. C'est donc un point très central, a commenté Gilles Lehoulier, qui y a lui-même accroché une pancarte électorale avant d'être élu à la mairie de Lévis. C'est probablement un message que le nouveau régime voulait lancer à la seigneurie de Lauzon, où les gens résistaient. La rigueur de la démarche des experts de Québec et de Lévis a convaincu le Peabody Essex Museum de procéder à un transfert de propriété. La pièce fait donc son entrée officielle dans la collection nationale après la micro-exposition qui a lieu de mercredi à samedi à la Maison Chevalier. Mais ça, je n'aurais jamais dû vous lire ça parce qu'on parle de début novembre. Donc, oubliez cela. Mais vous pouvez maintenant aller voir cette cage de métal dans laquelle a été enfermée la Corriveau, vivante ou morte. Ça, on ne sait toujours pas. Voilà, et que serait l'émission des livres plein les oreilles sans terminer par quelques titres en rafale que je voudrais vous proposer, des nouveautés en livre audio adapté comme « Les chroniques d'un cancer ordinaire, ma vie avec Igor », c'est de Dominique Demers. Quelqu'un a écrit « C'est une bien bonne histoire de cancer ». Avoir un cancer virulent, mais se jurer qu'il ne vous pourrira pas la vie, ni pendant ni après, si on survit. Dominique Demers raconte comment elle a gagné ce pari dans « Chronique d'un cancer ordinaire, ma vie avec Igor ». Si je me souviens bien, Marianne Paquette avait reçu Madame Demers à son émission « C'est bon pour la santé ». Je suis quasiment convaincue de cela. On s'attache à Dominique Demers en lisant « Chronique d'un cancer ordinaire », tellement que la rencontrant pour la première fois, on a le goût de lui faire une accolade, comme si on était sa sœur ou sa vieille chum, et de lui demander « Comment ça va ?» en espérant ne pas entendre le mot « récidive ». Elle a des yeux bleus extraordinaires, cette femme-là, comme pervenche d'ailleurs, hein, qui sont brillants d'une lumière intense. Lorsque Martine Doyon, la photographe, l'a rencontrée pour ce papier, elle était vêtue d'un chandail, d'un pantalon jaune poussin avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et à son bras, il y avait dans un petit panier Tim, un petit pitou noir tout neuf qui pèse une plume. La prolifique auteure Jeunesse se réjouit, c'est terminé depuis un an, ses traitements de radio, d'hormonothérapie, etc. Igor, le cancer du sein invasif, attrapé, entre guillemets, en 2008, a été liquidé. Mais pourquoi Igor ? Elle a répondu « Parce que c'est un prénom classique de méchant dans les films d'horreur et j'avais très beaucoup envie de le haïr. » Gloire au père, roman à l'index d'André Montmorency. À 75 ans, le comédien, animateur et metteur en scène André Montmorency n'a pas fini de nous surprendre. Le voici qu'il publie Gloire au père, un roman dans lequel un élève tombe amoureux de son agresseur, un frère enseignant dans le Québec des années 50. Lorsqu'il avait 13 ans, André Montmorency, lui par contre, n'est pas tombé en amour avec le père enseignant qui l'a, malgré tout, agressé sexuellement. Un journaliste lui a demandé « Comment ça t'est venu à l'idée d'écrire ce roman ?» Il a répondu « Il y a 3 ans, je parlais au téléphone avec ma sœur et je me plaignais de pas travailler. » Puis elle m'a dit « Arrête donc de te plaindre, t'as du talent pour écrire. Écris !» Alors j'ai aimé l'idée, mais il fallait que je trouve un sujet. Je suis allée m'étendre et tout de suite un souvenir m'est revenu, le père enseignant qui m'avait frenché quand j'avais 13 ans. S'il avait été beau, ce gars-là, j'aurais pu tomber amoureux. Dès le lendemain, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai écrit cette histoire en 3 mois. Alors cette histoire, je vous en rappelle le titre, d'André Montmorency, « Gloire au père », / roman à l'index. « Les accents circonflexes » de Jean-Benoît Nadeau. Et je prononce bien « les accents circonflexes ». C'est une chose curieuse que Toronto, nous dit Monsieur Nadeau, une fois qu'on s'est habitué au tramway, au raton laveur, aux voisins envahissants, à la vie sans cholestérol, aux épiceries sans alcool, aux beer stores, aux Tim Hortons, il y a encore le problème de Toronto, une ville qui présente la caractéristique d'être moins que la somme de ses parties. Toronto n'a pas de gestalt. Toronto est orgueilleuse, puissante, bourdonnante, mais pas vibrante. Alors, c'est une analyse humoristico-ethnologique qui illustre bien le style préconisé par Jean-Benoît Nadeau dans « Les accents circonflexes », qui est un livre qui repose en partie sur l'année passée à Toronto, là où il a écrit des livres sur la France. Bon, si vous aimez les défis, celui-ci en est un. Écoutez, honnêtement, c'est un livre que j'ai lu ici chez Vues et Voix. Ça s'appelle « Jonas de mémoire » d'Anne-Hélène Cliche. C'est un livre où il n'y a quasiment pas de ponctuation. C'est un livre poisson, comme l'a écrit à un moment donné un journaliste. Bon, l'histoire, elle est connue. C'est une métaphore de l'histoire de Jonas et la baleine. Transcrite de nos jours avec un petit garçon qui est ballotté à droite et à gauche dans la vie. C'est vraiment pas un livre évident. D'ailleurs, dans la presse, on écrivait le 29 septembre 2014, il ne s'agit pas d'une lecture dite facile, mais pour tous ceux et celles qui aiment les mots, les personnages forts, la poésie et la psychologie, Jonas de mémoire est un trésor d'écriture et d'originalité, un roman qui plonge en apnée sous la ligne de flottaison et qu'on aimera lire et relire. Pour cette même raison. Je voudrais aussi vous signaler Monsieur Proust de Céleste Albaret. Madame Albaret fut la gouvernante et l'unique confidente de Marcel Proust pendant les 8 années où il écrivit son œuvre, ce monument de la littérature mondiale. Et elle raconte cet homme qu'elle a infiniment aimé. Monsieur Proust de Céleste Albaret, A-L-B-A-R-E-T. Et je n'ai absolument plus de temps pour vous présenter d'autres titres en rafale, mais comptez sur moi pour le faire dès la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une très belle semaine de lecture. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté, mes invités Rima El-Khoury, Jean Bergeron et Jean Brière. C'était Clotilde Seille. À la semaine prochaine.